carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Albine Novarino, bonjour.
Bonjour.
Louis Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez tous deux un livre qui vient de sortir aux éditions Omnibus, Métier de toujours, la belle ouvrage, un recueil dont nous allons parler tout de suite. Alors, Louis Monnier, les auditeurs de Canal Académie connaissent votre signature qui figure en bas de la plupart de nos belles photos sur notre site internet, puisque vous avez photographié les plus grands écrivains et donc plusieurs membres de l'Académie française. Et la raison pour laquelle vous êtes dans nos studios, Louis Monnier, en compagnie d'Albine Novarino qui a signé les textes, ce n'est pas pour parler de ces clichés de Samuel Beckett ou de Marguerite Yourcenar, série que vous poursuivez toujours aujourd'hui, mais pour nous conter tous deux l'univers d'anonymes aux mains d'or, d'hommes et de femmes qui exercent ces métiers manuels ancestraux, les métiers de dinandier, de luthier, de bourrelier, de sculpteurs d'automates, les fabricants d'éventails, et j'en passe. Et vous faites entrer le lecteur dans l'intimité de ces ateliers. On est émerveillé par la beauté des œuvres, des ouvrages, bien sûr, mais aussi on reste fasciné par la beauté du geste. Et ce livre m'a renvoyé le souvenir d'une œuvre musicale, Experimentum Mundi de Giorgio Battistelli, à partir de l'encyclopédie de Diderot et du classement des différents métiers et arts, qui met en scène et qui met en musique, qui met en rythme le quotidien des artisans, semblable à ceux qui sont dans ce livre. Alors, comment est-ce que vous avez fait déjà pour dénicher tous ces artisans qui pratiquent des métiers que l'on croirait disparus, Louis Monnier ?
Eh bien, d'abord, il y a quelques années, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait un tour de France et j'ai photographié des compagnons de tout métier. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Par exemple, il y en a un, il avait d'abord fait l'école des beaux-arts, ensuite il a effectué son compagnonnage complet et maintenant il est établi vers Montpellier, il s'appelle Marshall, et donc maintenant il est retourné vers l'art et il fait des sculptures, alors que pendant tout un temps il a fait de la serrurerie. Mais il a une technicité extraordinaire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer ces artisans. Mais depuis tout petit, parce que moi je suis originaire de la Drôme, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Chabeuil, et il y avait beaucoup d'artisans, il y avait un très très bon ébéniste, il y avait un tourneur sur bois, il y avait des gens qui quand j'étais petit, ma mère m'emmenait les voir et j'étais fasciné par ce travail des mains. Et vous rappelez avec beaucoup de gentillesse le travail que je fais sur les écrivains, mais toujours j'essaye, lorsque je fais un portrait, de montrer la tête et la main. Parce que la main, c'est un deuxième visage.
Même chez les écrivains, évidemment.
Même chez les écrivains.
Donc c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années,
En fait, oui. Et j'ai
c'est
même dans
de
le
dénicher ou pas
non c'est pas très difficile, il faut en avoir envie
parce que vivant à Paris on les voit pas.
Il y en avait beaucoup, moi j'habitais dans le 10e, ouais. Et rue Martel où j'étais il y avait pas mal d'artisans et là je crois qu'il n'y est pas, dans le livre, mais j'ai rencontré, vous savez, on parle toujours des fameux couteaux de Laguiole, et j'ai rencontré un des créateurs de ces couteaux qui s'appelait Calmels, dont la fille a repris d'ailleurs à Laguiole sa boutique. Et lui, c'était un type, toujours un peu un de ces grands, un de ces géants qui sont capables de faire des objets très minutieux et pourtant eux qui ont une force physique colossale.
Alors, Albine Novarino, je trouve qu'une des beautés du livre, c'est aussi le texte. Et je trouve que les mots désignent précisément chaque métier, chaque geste, et ces termes, ils ont une sonorité qui résonne en nous. Tonnelier, charpentier, laqueur, sellier, modiste. Vous maniez ces mots depuis un certain temps, puisque ce n'est pas votre premier ouvrage sur le métier. Vous aimez aussi manier ces
Alors,
mots particuliers.
Oui, moi, à la différence de Louis Monnier, je suis plus dans le domaine de l'abstrait. Je dois avouer que j'ai lu plusieurs fois et annoté le dictionnaire des 1000 littrés. Ça a été ma base de départ. J'avais fait un système de coloriage sur un exemplaire donc du dictionnaire des 1000 littrés. Alors j'avais une couleur jaune par exemple pour les verbes désignant des actions, dont certains ne nous parlent pratiquement plus maintenant. Hein. On a quasiment oublié ces mots-là. J'avais une autre couleur pour les noms d'outils, une autre couleur pour les noms de métiers. Et c'est un univers tout à fait extraordinaire dans lequel, quand on y pénètre, on ne peut plus en sortir. Et c'est la raison pour laquelle on a une attitude tout à fait étonnante. On fait un livre qui souvent est un petit peu fatigant parce que ça demande quand même beaucoup de recherche. Et puis beaucoup de sympathie avec chaque métier, chaque corps de métier. Hein. Il faut se gérer un petit peu mentalement pour entrer dans un univers, celui du fer, celui du bois, celui des matières précieuses. Et malgré tout, dès que le livre est terminé, on est malheureux parce qu'on se dit « mais il y a tellement de choses que je n'ai pas dites, il y a tellement d'anonymes dont je n'ai pas parlé ». Et je reprendrai volontiers ce que disait Louis Monnier tout à l'heure quand il parlait des villageois ou des gens qui étaient à l'intérieur des communautés d'autrefois. Et ce que l'on a oublié, c'est qu'il y avait une véritable entraide entre les artisans. Et que, par exemple, la boutique du forgeron ou la boutique de la repasseuse étaient souvent des hauts lieux de convivialité. C'était des endroits où on travaillait dur, on travaillait de bonne heure le matin, où on travaillait tard le soir, mais où tout le monde venait. Alors, la littérature nous a laissé quelques traces, par exemple, puisque Giono est un excellent exemple. Son père était cordonnier et sa mère avait un petit atelier de repassage. Et dans ses mémoires, il a très longuement parlé de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Donc, c'était une époque où le travail et la vie, je dirais, associative, la vie affective, étaient intimement mêlées. Alors que maintenant, de nos jours, on a quand même tout à fait tendance à séparer la vie professionnelle, les contacts professionnels et la vie affective. Autrefois, la circulation se faisait de manière évidente.
Alors donc là, il y a une belle adéquation, je trouve, entre le texte et l'image. L'image est venue avant le texte, hein, c'est ça, dans ce livre?
Voilà, moi j'ai voulu mettre mes textes au service des photos de Louis Monnier. Hein, c'est-à-dire que j'avais ces photos sous les yeux, j'ai voulu entrer en sympathie et j'ai voulu essayer de me mettre aussi à sa place. Pour reconstituer un petit peu l'état d'esprit dans lequel il était. Et je dois dire que pour certaines photos, et c'est pas du tout une exagération marseillaise, dans l'atelier du cuir, je sentais le cuir. Devant les enclumes, j'entendais le bruit. Donc j'ai vraiment fait ce travail de façon beaucoup moins abstraite, par exemple, que pour mon dictionnaire, où là, j'ai eu moins de lyrisme, je dirais, et plus de rigueur, où j'étais beaucoup plus normative, en quelque sorte. Là, j'ai voulu l'accompagner en décalé, forcément, dans les ateliers dans lesquels il avait lui-même pénétré. Et puis, j'ai essayé, comme ça, de faire fonctionner mon imaginaire et d'imaginer les relations qu'il avait pu avoir avec les artisans.
Mais c'est vrai qu'en lisant ce livre, on a envie de retrouver ces gestes, d'entendre ces bruits, on a envie de les rencontrer. Vous avez passé du temps chez chacun?
Chaque fois que je vais chez un artisan, je reste un grand moment, puis je parle beaucoup avec lui, je rentre en sympathie. Et ce que disait Albine est très intéressant, mais moi, j'aime bien être au service du texte aussi. Parce que quand j'achète un livre, même un livre de photographie, je fais comme tout le monde, je tourne les pages, je regarde les photographies, puis après je lis le texte qui correspond à chaque image. Et cette information permet souvent de mieux comprendre une image. Parce que une chose que je voudrais dire, et maintenant c'est formidable, parce qu'à l'Académie des Beaux-Arts, il y a un grand changement, puisque l'Académie a accueilli deux photographes, Arthur Bertrand et Lucien Clergue, c'est que maintenant on reconnaît que l'image est un art. Que faire des photographies d'un art. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que il faut apprendre aux gens à lire une image. 99% des gens ne savent pas lire une image. Et maintenant, dans les journaux, c'est devenu catastrophique. Les gens qui mettent en page les photographies ne savent pas lire les images. Alors avant, il y avait des grands directeurs de la photo, il y a eu Brodovitch, il y a eu des... Même en France, il y a eu des Terrons, il y a eu tout ça. Mais autrement, maintenant, avec l'informatique, c'est beaucoup plus facile de faire des mises en page. Ils ne savent pas lire les images et souvent elles sont mises à contresens.
Alors, je me permettrai de dire que c'est d'autant plus extravagant que dans les collèges et dans les lycées, les enseignants d'art plastique et même les enseignants de lettres modernes ont comme formation et comme fonction d'apprendre aux élèves à lire les images. On doit faire notamment des études de tableaux. Mais je pense que malheureusement, les enseignants qui le font ont beaucoup de bonne volonté mais ne sont pas forcément formés, que les textes qui accompagnent tel ou tel tableau ne sont pas forcément forcément adaptés et que cette transmission se fait mal. Et je trouve que c'est très dommage.
Mais hier soir, au vernissage de l'exposition qui correspond donc au livre, il y avait une jeune femme, on l'appellera Marie-Laure, on en a son prénom, qui m'a dit qu'il y a quelques années, lorsqu'elle avait fait les Arts Déco, elle avait eu comme travail à commenter une photographie. Et elle m'a dit, je ne vous connaissais pas, et c'était une photo d'UNESCO que j'avais prise il y a bien des années.
Il y a justement des correspondances aussi dans ce livre entre de très anciennes photos ou clichés ou gravures et vos photos, Louis Monnier, qui datent évidemment de l'époque actuelle. Et c'est vraiment, c'est très marrant de voir, côte à côte une photo du même métier, l'une faite en 1910 et l'autre faite ces dernières années. C'est vous qui avez choisi ces photos
Non, c'est la jeune femme qui a fait la mise en page.
D'accord, c'est l'éditeur.
Et c'est Isabelle Raymond qui a fait le choix avec notre éditrice, qui ont fait ce choix.
Et vous vous retrouvez dans ces photos ou ces vieilles représentations?
Moi j'aime beaucoup les vieilles images. Elles ont une force qui est bien souvent, qui n'existe même pas maintenant dans les photos actuelles.
Alors moi je nuancerais, je dirais que il n'y a pas de décalage, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, entre les photos de Louis Monnier et certaines planches de l'encyclopédie de Diderot. Il parlait fort justement tout à l'heure des mains. On retrouve, et grâce aux photos, plus que par le texte, on retrouve les mêmes gestes. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'il y a des gestes qui se sont transmis quasiment depuis la nuit des temps. Il y a des métiers qui n'ont quasiment pas bougé. Moi, j'habite à la campagne et j'ai des chevaux. Il y a le maréchal Ferrand qui vient régulièrement. Le maréchal Ferrand, sauf que quelquefois, il vient avec un poste quand les chevaux sont loin dans le pré. Si on va chez le maréchal Ferrand, y faire pratiquement comme on ferait autrefois, avec les mêmes gestes. Le matériel a évolué, mais les gestes et les bruits sont les mêmes. Alors, ce qui a disparu, bien évidemment, et ça, on le retrouve en littérature dans le Grand Maulne. Dans le Grand Maulne, on s'aperçoit de l'impact qu'avait la boutique du Forgeron. Les élèves qui, après l'école, en toute saison, allaient autour du feu, parce que c'était des endroits où il faisait chaud. Il faut quand même pas oublier qu'autrefois, les gens souffraient beaucoup des intempéries. Alors, il y a aussi une chose que je voudrais dire et qui n'apparaît pas là dans ce bel ouvrage, c'est la fatigue des métiers oubliés, des métiers anciens. Là, par exemple, il y a des métiers comme celui de blanchisseuse qui n'ont pas été évoqués. Les gens étaient extrêmement fatigués. Je pense, Louis Monnier, que vous ne me contredirez pas.
Les gens qui tapaient sur une enclume. Maintenant, ils aiment tellement leur métier. Par exemple, le doreur que je suis allé voir, il me dit, ma femme, quelquefois, me téléphone à l'atelier et me dit, mais dis donc, t'as vu, il est 22h, t'es pas venu manger encore?
Oui, ça, c'est Jacques Monestier que j'ai eu au téléphone, me le disait aussi.
Et je voudrais dire une chose sur le geste. Moi, toujours, depuis tout petit, depuis que je regarde les artisans, j'ai été complètement bluffé par leurs gestes, parce qu'on a l'impression, par exemple, dans la Drôme, la Châteauneuf de Mazin, il y avait un homme qui s'appelait Schmidt et qui faisait des bijoux en maillecheur extraordinaire. Et un jour, il me dit, tu veux pas essayer? Et je me suis rendu compte que ce geste qui paraissait si simple, si évident, était quasiment impossible à faire. Dans tous les gestes de ces artisans, il y a une technicité, quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est la tête et les mains.
Et qui se transmet, c'est ça qui nous fascine aussi.
Il y a une transmission, et puis je crois que, contrairement à l'idée qu'on a pu en avoir à certaines époques, tout le monde n'est pas capable d'exercer un métier manuel, parce qu'il faut des compétences, et il faut aussi, surtout, je pense, de la patience. Il y a une sorte de patience, de ténacité, et à l'intérieur, je pense, des corporations d'artisans, à l'intérieur du même métier, il y a des gens qui sont plus ou moins bons. Il y en a qui excellent, et puis il y en a qui restent médiocres. Et ce geste qui se transmet depuis des générations, certains l'exécutent, je dirais, de manière naturelle, de façon juste, de façon efficace. Et pour d'autres, l'apprentissage a beau exister, ils n'arriveront jamais à un certain degré de performance.
Dans ce livre, il y a un homme qui fait des couteaux d'apparat extraordinaires, qui s'appelle Reverdy. Et lui, pour... Il y a le geste, mais aussi l'intelligence, puisqu'ils sont deux au monde à savoir incruster dans la lame des dessins. Vous avez un dessin qui, par exemple, qui va faire 24 cm sur 30, il arrive à le réduire à 2 ou 3 mm. Et il a même pour ça, il a racheté à la SNCF des marteaux pilons. Et c'est complètement incroyable de le voir travailler. Il est à Romans, dans l'Isère, et c'est fascinant.
Je vais vous poser aussi des questions très pragmatiques qui ne sont pas forcément abordées dans ce livre. Est-ce que ces artisans arrivent à vivre? Et est-ce que c'est un cliché de se dire qu'ils sont de moins en moins nombreux?
Alors, moi, ce que je peux dire Albin par rapport à mon expérience d'enseignante, c'est que l'Éducation nationale, qui pendant un certain nombre d'années a souhaité privilégier les formations mi-longues ou longues avec baccalauréat quasiment obligatoire et études supérieures en faculté avec des IUT, etc., a tendance maintenant à revenir un petit peu sur ses positions. Et il y a des filières vers les métiers d'art qui sont à nouveau encouragées. Et à l'issue de la troisième, donc après le brevet des collèges, on dirige un certain nombre d'élèves motivés et sur dossier vers des carrières de métier. Moi, personnellement, j'ai un élève qui a souhaité faire une formation de tailleur de pierre. Et ça, c'était parfaitement invraisemblable il y a 5 ans, ne serait-ce que cela.
Je pense que ce que veut dire Priscille, c'est que est-ce qu'ils peuvent vivre de leur métier?
Alors, est-ce qu'ils sont indépendants ou est-ce qu'ils dépendent forcément de commandes, évidemment, de plus grands groupes,
etc.? Ils dépendent de commandes, soit de particuliers, soit d'architectes, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir un apprenti avec eux. Et c'est ça le drame. Parce que, si vous voulez... Dès que l'apprenti a fini son apprentissage et devient un travailleur normal, eh bien, l'artisan est terrorisé par le fait d'avoir à payer des sommes de charges sociales considérables. Et bien souvent, ils n'ont même pas un employé. Tellement, parce que c'est le manque de régularité dans les commandes qui ne leur permet pas d'avoir un employé. Et comme en France, c'est très très difficile de dire « bon, monsieur, j'ai des commandes, j'en ai pour 6 mois, donc je vous engage pour 6 mois. Puis après, peut-être que pendant 3 mois, je ne vous ferai pas travailler. » Et ça ne marche pas en France, ce n'est pas possible. Donc, ils n'ont pas d'employés, ils travaillent énormément. Et ils gagnent d'ailleurs, je pense, assez bien leur vie.
Mais, ils ont assez de commandes en général.
Mais chez eux, le problème, c'est le manque de temps. Parce qu'il faut beaucoup de temps, même quand on est un artiste très, très formé, il faut du temps pour faire toutes ces belles choses.
Alors moi j'irais exactement dans le sens de Louis Monnier. J'ai souvent affaire au maréchal Ferrand dans une région qui est une région agricole, dans une région dans laquelle il y a de nombreuses personnes qui exercent encore cette activité. Et je peux vous dire que pour avoir le maréchal Ferrand, c'est la croix et la bannière. Parce que on n'arrive pas à les joindre. Ils sont toujours sur les chemins, ils ont toujours des chevaux affairés. Alors maintenant, bien évidemment, ils ne ferrent plus comme autrefois. Autrefois, le fer était fait en fonction de chaque sabot, selon le travail qu'exécutait le cheval. C'était un cheval de trait, un cheval de labour, un cheval de course, etc. Et puis selon sa race, et puis selon les saisons aussi. On ne ferre pas de la même manière un cheval quand il y a de la glace et quand il fait chaud. Mais donc maintenant, les fers arrivent tout conditionnés. Je ne dirais pas d'où, c'est un petit peu trop triste. Mais enfin, de pays lointains, on va dire. Ils arrivent par carton entier. Mais le travail du maréchal Ferrand, son art qui consiste à ferrer le cheval, ce qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, parce que le cheval est souvent rétif, le cheval est souvent dangereux. Dans les siècles passés, on a vu beaucoup de gens mourir d'un coup de pied de cheval. On a une expression qui est passée un petit peu en expression imagée qu'on emploie de moins en moins, on dit un coup de pied de cheval mort. Pourquoi? Parce qu'autrefois, un coup de pied de cheval vivant, ça pouvait vous envoyer à de patresse sans problème. Donc, moi, le maréchal Ferrand, il est, pour employer un terme moderne, surbooké. Et effectivement, il ne peut pas employer de personnes. Puis en plus, il y a aussi tout un côté administratif. Il y a des tas de mots à faire, de papiers, etc.
Mais le laqueur, par exemple, Lee, qui est dans ce livre, qui est un type extraordinaire, ouais, le temps qu'il faut, le nombre de couches qu'il faut passer, ou là, et quand ce sont des réparations d'objets de valeur, Il y a un nombre d'heures qui est colossal.
Oui, je crois qu'on voit bien, et mon texte a essayé de le rendre, mais je crois que c'est perceptible d'emblée par les photos. À partir du moment où on entre dans les métiers d'art et dans les métiers, je vais dire, un petit peu prestigieux, qui ne sont pas des métiers de la campagne où on est obligé d'être vraiment en phase avec un réel, avec la boue, etc., on est hors du temps. C'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai, moi, entendu certains artisans. Et quand on voit les photos, c'est vrai qu'on pénètre dans un autre univers. Le temps est aboli. Et c'est pour ça que je reviendrai sur cette notion de patience, de ténacité, qui, moi, force mon admiration. Parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où on zappe beaucoup, hein, on est toujours pressé, on veut toujours que ça aille vite. Et ces artisans-là ont gardé un sens du temps, de l'éternité, quelque part.
Métier de toujours, la belle ouvrage aux éditions Omnibus. Avec Albine Novarino et Louis Monnier, nous marquons une toute petite pause.
C'est un livre bizarre, mais un livre de réflexion essentielle sur la violence dans le monde contemporain. C'est le livre de René Girard, de l'Académie française, achevé Clausewitz. Il en parle avec moi, Damien Leguet, sur Canal Académie, dans l'émission En habit vert.
Nous parcourons donc ce livre Métier de toujours, la belle ouvrage, en compagnie d'Albine Novarino et de Louis Monnier. L'une a fait les textes et l'autre a fait les photos. Louis Monnier, vous vouliez vous arrêter aux pages consacrées à un certain taillandier. Qu'est-ce qu'un taillandier alors ?
Un taillandier, c'est quelqu'un qui forge des outils de jardinage, des outils quotidiens. Et ce sont des outils qui peuvent pratiquement garantir à vie. Vous achetez une bêche dans une grande surface, vous pouvez avoir la surprise de la tordre quelques mois après. Tandis que là, c'est à vie. Donc, parce qu'il les forge, il tient ça de famille, il sait faire ça, et depuis des générations. Et c'est extraordinaire de le voir travailler avec deux marteaux avec lesquels il frappe le fer rouge et l'un après l'autre, ça fait une véritable musique quand on le voit travailler.
Alors moi j'ajouterais, j'irais plus loin, quand Louis Monnier dit que le travail qu'il fait, l'objet est garanti à vie, je dirais que c'était des objets qu'autrefois, et je pense que c'est le cas pour ce talandier-là, les objets se lèguent.
Bernard Solon, oui.
Hein, Bernard Solon d'Orléans, je pense que quand quelqu'un décide de ne plus se servir de son outil, il peut le transmettre à quelqu'un d'autre, parce que l'outil a une durée de vie extraordinaire, et j'imagine que Bernard Solon, comme ses prédécesseurs, s'occupait également de la restauration des objets. Parce que autrefois, plus que maintenant, les outils, notamment dans les fermes, on s'en servait énormément et il y avait quand même une certaine usure, qu'on le veuille ou non. Il y avait une usure, l'objet pouvait être abîmé et les artisans restauraient, c'était quand même une partie importante de leur travail, restauraient les outils qu'ils avaient fabriqués, quel que soit le type d'outil. C'est en fait le talandier, c'est le forgeron de l'outil et il travaillait pour toute la communauté du village. On peut dire comme ça.
Donc, ce Bernard Solon a son atelier à Orléans. Est-ce que vous connaissez son parcours ? Est-ce qu'il tient ça de son père ?
C'est familial, oui.
Ouais.
C'est tout ce que je sais sur lui. Parce que je l'avais rencontré quand j'ai fait un ouvrage sur Orléans.
Mm-hmm.
Et moi, j'aime bien, quand je fais un ouvrage sur une ville, rencontrer des artisans, parce que je trouve qu'ils sont la vie et l'âme un peu de la ville.
Et ce talandier fabrique ce...
C'est-à-dire que le propre, en fait, de ces artisans, c'est aussi de fabriquer les outils qui leur permettent de fabriquer leur production. C'est un peu comme les compagnons, le système des compagnons. C'est-à-dire qu'on fabrique l'outil qui va vous permettre de travailler de la meilleure façon, de la façon la plus facile. Donc, ils forgent leurs propres outils qui leur permettent ensuite de produire ces bêches, ces pelles, ces...
Et vous parliez tout à l'heure de bisaigus, juste avant le début de l'émission.
J'adore les bisaigus.
Racontez-nous.
Les bisaigus, c'est un des instruments un peu mythiques chez les compagnons. Et cet instrument permet de, si vous voulez, lorsque vous avez une poutre en hauteur, vous ne pouvez pas amener une scie. Donc, avec cette bisaiguë qui a un bord extrêmement tranchant, vous rabotez ce que vous souhaitez. Et avec, c'est quand on la manie bien, comme comment dirais-je, Pascal Mézy le fait, on voit sa photo dans l'ouvrage, et c'est comme une lame de rasoir. Et ça va très très vite. J'étais complètement étonné de voir que ces vieux instruments, qui sont très adaptés au corps humain,
L'ergonomie
de ces instruments,
existait de manière instinctive.
Et ça, c'est un instrument extrêmement pratique.
Mmh. Donc fait par le charpentier Pascal
Mézy. Qui permet d'aller dans les coins et... Mmh.
Pour en revenir au taillandier, par exemple, dont le mot pratiquement est sorti de notre langue, il y a peu de gens maintenant qui savent ce qu'il faisait.
Donc on dit taillandier, pas taillandier.
Alors,
je me suis trompée tout à l'heure.
Émile Littré.
Il y a les deux dans le livre.
Voilà, Émile Littré dirait, et on va dire comme Émile Littré, parce que c'était quelqu'un de très bien sur le fond, que les deux usages sont acceptés.
D'accord.
Alors maintenant, je pense qu'il faudra statuer, puisqu'il faudra figer le mot dans une forme définitive. Parce qu'autrement, s'il y a des variantes, on risque de le perdre. Et souvent, dans les noms de métiers, dans les noms d'outils, on a des variantes locales. Donc là aussi, je pense que le mot était prononcé différemment selon les régions de France. Mais son importance dans les communautés villageoises était extrêmement importante, puisque comme le rappelait Louis Monnier, il formait lui-même des outils qu'il forgeait pour travailler, pour son propre travail à lui. Mais il faisait également des outils pour ses confrères. Il fabriquait par exemple des tenailles pour les menuisiers, des fers pour ceux qui utilisaient des rabots, des planes pour les tonneliers. Et pour la communauté rurale qui travaillait la terre, il faisait des fourches, des binettes, des pelles, des pioches, des tridents, mais des matériels également plus gros comme les socs pour les charrues. Alors là, par exemple, les socs et les pics, c'était des choses qu'il reprenait après, comment on pourrait dire, en service après-vente. Le terme n'existait naturellement pas. Mais les gens venaient l'hiver, dans les périodes où les travaux des champs étaient moins importants, venaient faire réparer leurs outils et leur matériel. Et c'est vrai que les paysans avaient aussi une compétence pour essayer de rafistoler. Hein. On était quand même dans une société aussi où on récupérait. Et je pense qu'ils étaient capables de récupérer des pièces qui étaient vraiment amochés pour leur redonner une nouvelle vie.
D'ailleurs, dans chaque ferme, il y a encore très peu de temps, il y avait une meule pour aiguiser les instruments.
Mmh. Mais pour être un petit peu complet quand même sur nos amis les taillandiers, il faut savoir qu'ils existaient non seulement dans les campagnes, mais également dans les villes. Et ils faisaient également des cogniers, des haches, des serpes, des doloirs, des scies, des limes, des poinçons, mais aussi des outils, enfin des instruments, des batteries de cuisine. Hein. Il leur arrivait de faire fréquemment des objets qui permettaient d'alimenter le foyer des cheminées. Des chenets, des pinces, etc. Et en fonction du temps qu'il leur restait, ils décoraient plus ou moins les objets. Mais ils faisaient aussi les arrosoirs sur lesquels nous pâmons tous et toutes maintenant, hein, les beaux arrosoirs, c'était ça. Ils en faisaient. Alors là, par exemple, quand les arrosoirs avaient des trous, il n'était pas question de les porter à la déchetterie. Ils les, je ne sais pas quel est le terme qu'on emploie,
rafistolaient,
ressoudaient. Il comblait le trou, il mettait une pièce. rien n'était perdu. Hein, on était nullement avare de son temps, mais sur les objets, on leur donnait toujours une seconde vie, une troisième chance. Hein,
Une toute autre économie. En fait.
Ah oui, c'était pas du tout une société de consommation, et ça c'est tout à fait stupéfiant. Pour parler d'un métier qui n'a pas été évoqué dans ce livre-là, mais que nous évoquerons peut-être un jour dans un prochain livre, là nous avons parlé du métier de bottier. Donc il s'agit de chaussures quand même de luxe. A contrario, dans les siècles passés, il y avait des savetiers, hein, des marchands de chaussures d'occasion. C'était un corps de métier qui était extrêmement important. Et il y avait chez eux ce que l'on appelait les sauveurs d'âme. Les sauveurs d'âme étaient des récupérateurs de l'intérieur de la chaussure, de la partie dure. C'est-à-dire que quand tout était parti, le talon, le dessus, le dessous, ils récupéraient donc l'âme de la chaussure et ils étaient capables, avec d'autres chaussures de récupération moins abîmées, de refaire une chaussure qui était revendue d'occasion. Et puisque nous avons un chapelier dans notre ouvrage, un modiste qui fait des chapeaux, il faut savoir aussi qu'autrefois, y compris à Paris, Les gens portaient chapeau parce que c'était, ils avaient froid l'hiver, ils avaient chaud l'été, parce que c'était aussi un signe d'appartenance sociale, notamment dans la hiérarchie ecclésiastique. Et les gens qui portaient un chapeau, quand ils en avaient assez de leur chapeau, le revendaient. Et il y avait ce que l'on appelait des crieuses de vieux chapeaux. Et c'était des silhouettes tout à fait pittoresques de Paris, parce que pour avoir les mains libres pour faire pour s'agiter, elles empilaient leurs chapeaux sur leur tête, elles en avaient une dizaine, et quand on lit Alfred Franklin, il nous met bien, c'est dans les statuts des crieuses de vieux chapeaux, qu'elles ne pouvaient vendre des vieux chapeaux qu'après les avoir dégraissés. Parce que comme il y avait pas mal de maladies qui se transmettaient, il fallait que l'intérieur des chapeaux ait été, on va dire, brossé.
Je voudrais revenir sur les bottiers. Il y a quelque chose qui est actuellement vraiment un problème avec les bottiers, c'est-à-dire que le commun des mortels ne peut absolument pas s'acheter une paire de bottes faites sur mesure. C'est complètement inachetable. Ce sont des sommes considérables. À moins d'avoir la carte bleue de M. Dumas, mais...
Effectivement, c'est un des soucis qu'on se pose en lisant ce livre. On se dit, ben, c'est magnifique, mais est-ce que c'est abordable? Est-ce qu'il y a encore une clientèle pour ce genre de métier qui les fasse vivre? Enfin, c'est toute la question économique autour de ces métiers. Est-ce que vous en avez une idée?
Je pense que la plupart de ces métiers, la production de la plupart de ces métiers est très difficilement abordable par des revenus moyens. Disons, la classe moyenne ne peut pas se payer un objet fait par un de ses artisans. C'est vraiment c'est à un niveau qui est vraiment très important. À moins d'avoir une très belle pièce chez soi et de vouloir vraiment la faire réparer, par exemple par un laqueur ou par un doreur, mais c'est des sommes qui sont vraiment... En somme, ce sont les gens riches qui peuvent se faire réparer ou faire des objets par ces gens-là, ce qui est quand même très dommage.
Oui, parce que ça veut dire que le cycle économique de ce genre de métier a totalement changé. Au lieu de s'adresser au plus grand nombre, ça s'adresse plus qu'à certaines personnes qui ont l'argent pour se le permettre.
Oui, mais je dirais aussi qu'il y a une question de culture. Je voudrais rappeler ce que disait Coco Chanel. Enfin, elle disait que sa grand-mère lui disait « Nous sommes trop pauvres pour acheter bon marché ». Donc, je pense que dans les consommateurs, il y a aussi des gens qui surconsomment. Je ne sais pas, peut-être que plutôt que d'avoir 35 paires de chaussures, et je pense qu'il y a des gens qui ont 35 paires de chaussures, peut-être qu'il vaut mieux en avoir une seule paire, encore que le bottier dise qu'il faut toujours en avoir deux pour laisser se reposer, pour que les chaussures durent plus longtemps. Mais je vais prendre l'exemple du relieur, par exemple. Le relieur,
c'est abordable.
Bien, voilà, et que par exemple dans les livres qui sont reliés, contrairement à l'idée que nous en avons a priori, il peut y avoir quelqu'un de modeste qui a un livre de recettes de cuisine qui lui vient de sa grand-mère, un livre qui n'a pas du tout de valeur marchande, qui vaut, comme on disait autrefois, 3 francs 6 sous, mais qui est un objet symbolique, un objet emblématique, et une personne, y compris de revenus modeste, hein, c'est le relieur qui le dit, portera le livre de cuisine en question pour le faire relier, pour transmettre, on dira, en même temps que le souvenir de la grand-mère, de la cuisine de la grand-mère, le livre, puisque la reliure est censée embellir, mais censée également conserver.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, moi je suis passionné par les sculpteurs. Eh bien, quand on regarde le prix que les sculpteurs vendent, c'est pas cher. C'est bien souvent le prix de la fonte, avec un petit bénéfice. Et si les gens, pour décorer leur maison, leur appartement, leur bureau, devraient acheter des sculptures, c'est à notre époque, il y a de très belles sculptures de sculpteurs vivants qui sont très abordables, si vous voulez, qui valent le prix d'une paire de bottes chez un grand bottier.
Alors moi je dirais que là on a affaire à une question de mentalité. Autrefois on s'engageait vis-à-vis des objets, vis-à-vis aussi des gens. Je veux dire, moi j'ai écrit des ouvrages sur le mariage, donc je ferais volontiers un parallèle avec le mariage. On se mariait, on imaginait bien qu'on allait vivre le restant de ses jours avec le conjoint que l'on avait choisi, mais y compris avec la table de nuit, la commode qui avait été léguée, etc. Non mais c'est vrai, je crois que ça c'est extrêmement important. Alors que maintenant, on s'installe quand même dans une sorte de provisoire permanent, et on aime à aller au moment des soldes chez des marchands de meubles, bon, je ne sais pas si on peut les citer, on va dire qu'ils viennent de Suède, hein, ou du Danemark, et on change les choses. Et puis aussi, je dirais qu'on change aussi souvent de vie. La façon dont on travaille nous autorise à être... en permanence, un petit peu sur le fil du rasoir. On va peut-être demain devoir aller travailler aux États-Unis, faire un stage en Espagne. Donc, avoir de très beaux meubles, avoir des sculptures. Quand on part faire un stage 6 mois en Australie, on peut pas emporter sa sculpture. Donc, il faudrait. C'est une question de mentalité aussi. Je pense que les gens aiment les beaux objets.
Je suis tout à fait d'accord, parce que quand on voit, par exemple, les abonnements à certaines chaînes de télévision, si on faisait le compte à la fin de l'année, les plusieurs milliers d'euros que représentent ces abonnements, on peut se payer une sculpture.
Oui. Eh bien, longue vie à ces beaux métiers dont vous saurez beaucoup plus et qui vous donneront peut-être l'envie de changer de profession dans Métier de toujours, ces métiers d'éternité, la belle ouvrage. Et ce livre est un bel ouvrage aux éditions Omnibus, paru en novembre 2007. Je vais vous donner quelques références aussi d'autres livres qui vous permettent d'approfondir ces métiers. Je cite quelques livres que vous avez sortis, Albin Novarino, que vous avez rédigé. Il s'agit de « 100 métiers oubliés », toujours aux éditions Omnibus, « Dictionnaire des métiers des villes et des campagnes » aux éditions Omnibus, et puis vous allez sortir bientôt d'autres livres. C'est une question que vous aimez bien.
Ah oui, 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 je crois que quand on commence, et c'est pas Louis Monnier qui me contredira, quand on commence à pénétrer dans l'univers des métiers oubliés, on n'arrive pas à en sortir, hein. C'est tout à fait captivant au sens étymologique du terme.
Vous avez vous-même changé de métier ?
Alors ben moi j'ai ce privilège extraordinaire de pouvoir avoir le sentiment par mon imaginaire d'exercer tous les métiers en même temps. Et là je vais publier un ouvrage aux éditions Alan Sutton qui s'appelle donc les métiers de A à Z. Donc c'est une sorte de farandole des métiers oubliés. Et à chaque entrée, puisque c'est conçu un petit peu comme un dictionnaire, j'ouvre une porte différente. Et je rentre dans un univers et dans une production qui change. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux d'écrire sur les métiers et de photographier les métiers.
Merci beaucoup Louis Monnier, merci beaucoup Albin Novarino, à bientôt.
Merci à vous.